RVM, atelier éducatif.
RVM,
Radio Valois-Mulsien,
93.7,
la radio qui vous écoute.
Papala papala, papala papala, papala papala, papala papala, papala papala, papala papala, papala papala.
J'irai jusqu'au bout, mon projet et mon parcours. J'irai jusqu'au bout, sans jamais faire demi-tour.
J'ai l'avenir dans la poche pour profiter de chaque jour. Alors j'ignore tous vos discours, vers le bonheur nous on court.
J'irai jusqu'au bout, papala, 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 papala.
Animateur radio
Julien CPE,
Mathéo mécanicien,
Kima mécanicien,
Gabriella cavalière professionnelle,
Madison dessinatrice,
Josué mécanicien.
En 2024,
du nouveau à Max,
du social, la team revient à l'attaque
pour l'audiothèque,
des compteurs de métiers,
RVM
93.7,
Radio Valois-Mulsien,
la radio qui vous écoute.
Bonjour chers auditeurs, auditrices, nous sommes aujourd'hui sur RVM Radio Valois-Mulsien 93.7, la radio qui vous écoute pour notre émission
L'avenir de la nouvelle génération,
animée par les élèves de 4e à Villers-Cotterêts. Au micro Josué, j'anime cette émission avec mes collègues
Kimène bonjour,
Tyrone bonjour,
Elisha bonjour,
Gabriella bonjour.
Aujourd'hui nous accueillons Séverine Peters, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes hôtesse de l'air. Merci d'avoir gentiment accepté de nous accorder une interview. Pouvez-vous décrire votre métier en quelques mots ?
Oui. Alors, hôtesse de l'air, c'est un terme ancien. On dit maintenant personnel navigant. Ça inclut les stewards et les hôtesses de l'air. Et donc, mon travail consiste à accueillir les passagers, à faire en sorte qu'ils soient bien installés. Je suis là pour leur sécurité, pour leur bien-être, tout le long du vol, jusqu'à ce que la porte s'ouvre et qu'ils s'en aillent.
Faut-il parler un peu toutes les langues pour savoir communiquer avec des passagers ?
Il y a beaucoup de façons de communiquer, mais l'anglais est forcément obligatoire, anglais courant. Les autres langues sont les bienvenues et ça aide. Et puis après, on peut toujours communiquer avec les signes, on fait comme on peut. Parce que je ne parle pas le japonais, mais quand même, j'arrive à leur montrer les sélections repas.
Quelle étude faut-il faire ?
Les compagnies aériennes demandent un niveau bac minimum. Plus 2, c'est mieux. Si on a une expérience, une formation en hôtellerie, en tourisme ou en aviation, ça peut être un atout dans la communication.
Depuis combien de temps exercez-vous ce métier ?
J'exerce ce métier depuis 30 ans. 3 ans avec une première compagnie et 27 ans pour cette deuxième compagnie que je quitterai certainement jamais.
Quelle a été votre première compagnie ?
Quand j'ai commencé, j'ai postulé dans toutes les compagnies et la première qui m'a répondu, c'était Saudi Arabian Airlines. Donc j'ai fait 3 ans chez eux où j'ai été basée en Arabie Saoudite à Jeddah. Et puis ça ne me plaisait plus, je suis rentrée sur Londres en Angleterre. Et là, il y avait une open interview, des sessions de recrutement qui se font pour certaines compagnies et pour ma part, United Airlines, et pour laquelle je travaille depuis 27 ans maintenant. Les sessions de recrutement, c'était dans un hôtel. On se présente, on est 4000, 5000, hein, une cinquantaine, une 70 personnes à chaque session. Là, à ce moment-là, on avait un examen écrit et un entretien pour se présenter. Et ça permettait de passer à l'étape suivante ou de ne pas passer du tout.
Avez-vous exercé d'autres métiers ?
Comme j'étais archi nulle en anglais, je suis partie en Angleterre comme jeune fille au pair. J'avais 22 ans quand j'ai commencé à voler, je n'ai pas eu le temps d'avoir un autre métier en fait.
Qu'est-ce que c'est une fille au pair ?
Alors une jeune fille au pair ou un jeune homme au pair, c'est une personne qui part dans un pays étranger pour s'occuper d'enfants ou de la maison. Pendant un certain temps, c'est un petit contrat pour pouvoir apprendre la langue et connaître la vie du pays. Moi, j'avais 4 enfants Je voulais plus d'enfants de ma vie. J'avais un bébé, un petit garçon et trois petites filles de 2, 4 et 5 ans. Des petites chipinettes en Angleterre, à Manchester.
Avez-vous toujours voulu exercer ce métier ?
Oui. Depuis l'âge de 7 ans, je sais que mon métier ne serait pas au sol. Je savais déjà que ce serait dans le ciel quelque part, n'importe quoi, mais pas au sol.
Quel est le plus long voyage que vous avez fait ?
Pour le travail, de New York en Inde à Bombay, 16 heures, non-stop. C'était très long. Mais les voyages que je fais en général, c'est 8 heures. Je fais que du long courrier.
Qu'est-ce que vous pouvez faire dans l'avion pendant 16 heures ?
Très bonne question. Mais déjà, sur les vols de 16 heures, il y a beaucoup de passagers. Ce sont des gros porteurs, des gros avions. On a de quoi s'occuper. On leur propose des boissons, on leur donne une collation, un repas. Il y a un temps de pause après le service où on se relaie et nous avons heureusement des couchettes où on peut se reposer. Donc sur un vol de 16 heures, on peut avoir entre 4 et 6 heures de repos loin des passagers, dans un endroit un peu confiné. Et ensuite, allez, on reprend le service et c'est l'atterrissage. Ça passe très vite en fait. C'est juste entre les deux services, qui est parfois un peu long, mais on ne s'ennuie jamais. Hein. On a des collègues, on parle, on sort les jeux de cartes, on se demande ce qu'on va faire pendant notre escale, on se donne les bonnes adresses restaurants.
Est-ce que vous avez déjà eu peur dans l'avion ?
Oui. Oui, ça m'est arrivé 2-3 fois où on a eu de très très fortes turbulences, mais 2-3 fois en 30 ans. Hein. Je me suis assise et j'ai fait mon signe de croix. Mais c'était de très très fortes turbulences. On était dans une tempête de sable et le sable qui frottait l'avion, j'avais l'impression qu'un dragon était sur la carlingue, faisait grincer la tôle. Je me dis, mais on va pas s'en sortir. Et finalement, eh bien voilà, on a atterri normal. Et la deuxième fois, à l'atterrissage, c'était un petit avion, un 737. On a eu une volée d'oiseaux qui sont entrés dans un des réacteurs. Donc on a dû atterrir en urgence. Mais on n'a pas déployé les toboggans. Les passagers, ils avaient l'air d'avoir plus l'habitude que moi. Mais sinon, non, c'est tranquille. Dans l'avion, on n'a pas peur.
Le décalage horaire vous pose-t-il des problèmes ?
On apprend à gérer. Alors moi, quand j'ai commencé, il y avait des escales de 4-5 jours. Donc là, on a le temps de se reposer. On sait que 16 heures de vol, bon, bah, il faut assurer. Il faut savoir se reposer avant un vol. Donc non, moi, le décalage horaire, je gère. Mais j'imagine, pour les nouveaux qui arrivent, qui veulent faire la fête, qui sont jeunes, c'est problématique. Ouais.
Conseillerez-vous ce métier aux jeunes ?
Ah oui, c'est le plus beau métier. J'ai pas l'impression d'aller travailler. Je vois du monde, des personnes différentes tous les jours. Je travaille pas avec la même équipe. Je les vois une fois par an, deux fois par an. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Sur place, pendant les escales, je vais faire mes courses, je vais au restaurant, je prends du temps pour moi, je visite. Pour moi, ce n'est pas un métier, c'est du plaisir.
Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier ?
Alors, les avantages, on voyage, on voit du monde. Pendant les Césars à Los Angeles, on va voir toutes les stars. On a des billets à bas prix, si ce n'est pas gratuit. On peut voyager n'importe où. Jusqu'à ce que j'ai eu mon fils, j'étais tout le temps dans ma valise, dans les aéroports, à voyager à droite à gauche. Je m'arrêtais jamais. La paye est plutôt bonne. Les inconvénients, c'est le décalage horaire, c'est travailler les week-ends, les jours de fête, les anniversaires.
Quelle star avez-vous rencontré ?
C'était un ancien président des États-Unis, c'est Bill Clinton. Vous connaissez ? C'était début 2000. Il a été 2 fois président des États-Unis. Il a été connu pour cet énorme scandale, mais il est hyper connu. C'est comme Obama. Vous connaissez
oui,
Obama
oui.
Voilà. Puis j'ai eu Tony Parker. Il est hyper grand, hyper mince. Et puis beau garçon. On essayait de faire des selfies parce qu'il était un peu discret. J'ai eu Ron de Harry Potter. Et là, on a su qu'il avait une copine et qu'elle était enceinte. Et j'ai eu Gloria Gaynor. vous n'étiez pas née. Gloria Gaynor, qui était la marraine de la Coupe du Monde de football en Afrique du Sud. Et donc, elle chantait « I will survive ». Non, vous ne vous souvenez pas? Oh, bah alors, mais les jeunes. « I will survive ». First, na, 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 na. Non na, na, na,
na, na, na, na, ça ne vous dit rien. Na, na, na,
na, na. J'étais assise en première classe. Et on passait discrètement à côté d'elle. Et à la fin, elle en a eu marre. Elle était hyper sympa. Elle s'est levée. Elle est allée en économie. Et on a fait une séance de chant. C'était trop cool.
Vous faites combien de vols par mois?
J'ai la chance, avec ma compagnie, de choisir le nombre de vols. Alors, quand j'ai envie de prendre des vacances, je fais 2 vols. Mais généralement, un planning normal, c'est 5 à 6 vols.
Quel est votre plus beau souvenir?
J'en ai tellement. Le plus beau. Quand j'ai commencé, on faisait des vols magnifiques. On faisait des vols toujours destination soleil. Je me souviens d'une fois où on était parti au Pakistan, que je connaissais absolument pas. C'était encore au temps où les routes étaient en terre battue. Et on a décidé de se faire un méchoui à l'hôtel. Ils nous ont ramené un demi-mouton sur une couverture par terre où tout le monde mangeait à la main. C'était assez folklorique. Et ensuite, on est sortis dans la ville, c'était des paysans, quoi. C'est pas du tout ce qu'on peut imaginer ici en France ou en Europe ou même aux États-Unis. Il y avait des tuk-tuk, ces petites voitures à 3 roues là, qui sont trop rigolotes. Hein. Et on faisait des courses de tuk-tuk. Ça, c'était un beau souvenir. Et puis après, la visite du Taj Mahal en Inde, les plages paradisiaques à Kuala Lumpur, en Malaisie, en Indonésie. C'est que du bonheur la plupart du temps.
Avez-vous eu des passagers difficiles et comment les gérez-vous?
Oui, j'ai eu des passagers difficiles. Ce que je ne comprends absolument pas, parce que quand on est à 30 000 pieds dans le ciel, dans les nuages, qu'on passe d'un pays à un autre, à traverser un océan, ça doit être que du bonheur. Mais il y en a toujours un qui ne va pas être content. Comment je le gère? Il y a 2 solutions. Soit il est vraiment, vraiment en colère. On en a eu un récemment où ils se sont battus. On a fait atterrir l'avion, on les a débarqués. Depuis une bonne 20aine d'années, on rigole plus. Hein. Vous ne vous mettez pas d'accord, vous nous mettez des bâtons dans les roues pour notre service, pour la sécurité des passagers. Vous êtes arrêtés dès qu'on atterrit. Hein. On rigole plus. On gère. On a une hiérarchie. On a le chef de cabine qui va gérer après les hôtesses hein, et les stewards. Si ça ne le fait pas, le commandant intervient. Et si la personne ne se calme pas, ils se font arrêter et c'est la police qui prend le relais au sol.
Ce métier est-il typiquement féminin ou masculin?
Oui, il y a environ 80% de femmes encore dans l'aviation, mais il y a quand même 20% d'hommes. Ça se démocratise maintenant, c'est ouvert à tout le monde. Quand on a commencé à voler, quand les premiers avions ont commencé, c'était des infirmières. Les hôtesses de l'air, c'était des infirmières.
Comment voyez-vous votre métier dans l'avenir?
J'adore mon métier. Je ne le considère pas comme un métier, c'est un plaisir. Donc je vais rester où je suis, comme je suis, et continuer jusqu'à ce que je ne puisse plus.
Ce métier a-t-il beaucoup évolué depuis que vous l'exercez?
Oui, il a beaucoup évolué. J'ai commencé en 1993. On avait une première classe et un service d'exception. Et puis, il y a eu le 11 septembre 2001 où ce service a dû être arrêté. Par exemple, pour nous, on avait un roast beef qu'il fallait couper avec un énorme couteau. Vous imaginez dans l'avion un énorme couteau, ce que ça pourrait faire. Ça pourrait donner des idées à certains passagers. Donc, on a arrêté. Maintenant, les plats sont préparés. Enfin, il n'y a plus ce service d'exception qu'on avait. Nos passagers ont changé également. Les passagers première classe, business class s'habillaient et les gens en économie étaient courtois. Veste, cravate, jupe, chapeau. Maintenant, les passagers viennent parfois en pyjama pour les vols de nuit, des adultes. Hein. Je ne comprends pas, mais bon, chacun son style. Hein. Ou alors, jean troué, t-shirt. On ne peut plus discriminer, donc on doit accepter n'importe qui. Ça a changé de clientèle. Maintenant, tout le monde peut voyager. Les prix des billets, c'est comme un billet de train, presque. On rajoute 50 euros de plus, on peut avoir hein, Paris-New York, aller-retour à 500 euros, ça va, c'est pas très cher. Hein. Alors qu'avant, à Nantes-Londres, ça coûtait ce prix-là, minimum.
Quel avion préférez-vous ?
Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup d'Airbus dans notre compagnie. On a surtout des Boeing, compagnie américaine, évidemment. Le 787 est magnifique. Il est neuf. C'est notre dernier. L'architecture à l'intérieur, les designs sont très arrondis. Les fenêtres, il n'y a plus de volets. C'est un petit bouton qui change la couleur du hublot. De grands espaces pour travailler, des allées beaucoup plus larges que les autres avions. On peut passer avec nos voitures, faire le service sans déranger. C'est que du bonheur.
Quelle est votre plus grande passion ?
Le contact avec les gens et les voyages. J'ai jamais tenu en place. À 15 ans, je suis partie de la maison pour partir à l'aventure. À 17 ans, j'étais en Angleterre. À 22 ans, en Arabie Saoudite. À 24 ans, aux États-Unis. J'ai eu la chance de pouvoir habiter dans plein de pays, de voir des cultures différentes, des paysages différents. Ça, c'est ma passion. Et puis, ça l'est toujours.
Faut-il des qualités spécifiques pour exercer ce métier ?
Oui, il faut avoir le contact avec les gens, avoir confiance en soi, parce qu'on est devant 300, 400 personnes. Il faut montrer qu'on a le contrôle. S'il se passe quelque chose, tout le monde se retourne vers nous. Il faut avoir une certaine culture générale pour pouvoir parler à n'importe qui, se mettre au niveau des gens sans juger, savoir s'adapter à n'importe quelle circonstance, un bébé qui pleure, une personne qui tombe parce qu'elle a trop chaud, il faut lui ramener l'oxygène, il faut savoir s'adapter au quart de tour.
Prenez-vous des stagiaires ?
Dans la compagnie pour laquelle je travaille, non. Pendant les vols, non. Mais il me semble que Air France, ils ont des stagiaires au sol, oui.
Y a-t-il une hiérarchie dans l'avion ?
Alors, il y a le commandant de bord qui est le grand chef, hein. Et puis, il y a le chef de cabine, le superviseur, celui qui gère le plan de vol, les problèmes dans l'avion, le service. Et c'est à lui qu'on s'adresse si les passagers ont besoin de quelque chose de spécifique. C'est lui qui va dire bonjour aux passagers avec un statut et les hôtesses de l'air. Il y a celles qui travaillent dans les cuisines, dans les galets, et celles qui font le service.
Avez-vous des contrats ?
Ah oui. Je pense comme dans tous les métiers, j'ai un fils de 12 ans, donc il faut que je le fasse garder quand je m'en vais. Mon mari est navigant, on se voit parfois en coup de vent entre deux escales, ça peut être contraignant. On travaille les anniversaires, le jour de Noël, Pâques. Certains enfants ne supportent pas trop, le mien il n'aime pas, mais bon, c'est la vie.
À quoi ressemble votre costume de travail ?
On a une palette d'uniformes qui va à peu près à toutes les morphologies. On a une robe. Notre uniforme pour ma compagnie, United Airlines, est noir et bleu, bleu profond, bleu roi. C'est une robe à manches courtes. On a une jupe avec une veste zippée ou une chemise avec un gilet. On a le pantalon avec, pareil, la veste zippée ou une chemise avec un gilet de serveur et une veste.
Vous n'avez pas de petit chapeau ?
Ah, on avait. C'était très beau. Je trouvais ça très élégant, mais non, c'est plus la mode. Et là, on a très peur pour le prochain uniforme qui va arriver normalement l'année prochaine. Ils sont en train de penser aux shorts. Je trouve pas ça très glamour. C'est une compagnie américaine, c'est très américain. Voilà.
Le temps de cette émission est écoulé. Nous remercions Séverine Peters de nous avoir consacré cette émission.
Merci.
Merci. Merci.
Et mais c'est moi qui vous remercie et bonne chance pour le futur.
Pour moi, le métier d'hôtesse de l'air, c'est les personnes qui aiment voyager et qui accompagnent les personnes d'un pays à un autre, qui les conseillent dans leur voyage, qui les rassurent pendant le vol.
Hôtesse de l'air, j'ai trouvé que c'est bien parce que on peut voyager partout et en même temps découvrir des personnes, c'est bien.
Pour moi, le métier d'hôtesse de l'air, c'est bien parce qu'on peut voyager, on apprend à parler des autres langues que le français.
Pour moi, le métier d'hôtesse de l'air, c'est bien parce qu'on peut aider les gens et les accompagner en parlant d'autres langues et voyager dans d'autres pays.
Pour moi, le métier d'hôtesse de l'air, c'est découvrir différents pays.
Pour moi, le métier d'hôtesse de l'air, c'est un rêve. Un rêve qui s'est réalisé. tous les jours, je me réveille avec le sourire pour aller travailler et je pense que c'est le plus beau cadeau que je me suis fait.
Écoutez les interviews faites par les collégiens
pour l'audiothèque de Conteurs de Métiers. À réécouter en podcast.